Livre 4, La vallée d'humiliation. Chapitre 1er. Singulier protestantisme, ignoré au temps du Bossuet. Vous avez peut-être, en descendant le Rhône par une belle journée d'été, senti les rayons du soleil attristés par l'aspect des villages en ruines semés le long de ses rives. Ces débris vous racontent que le fleuve rapide s'est levé un jour comme un dieu colère et destructeur, balayant et entraînant les faibles générations dont ces tristes vestiges rappellent le souvenir, en laissant la désolation sur ses traces. Quel étrange contraste, en effet, produit par ces restes informes de chétives maisons qui, dans leurs plus beaux jours, n'abritèrent que des vies modestes, appartenant par tous leurs détails à notre époque vulgaire, et celui que nous offrent les ruines de ces vieux châteaux des bords du Rhin. Celles-ci se sont émiettées et se sont si agréablement harmonisées avec la verdure et les rocs escarpés qu'elles semblent en faire partie aussi naturellement que le pin des montagnes. Même au temps de leur splendeur, ces édifices ont dû s'adapter à cette nature, comme s'ils eussent été élevés par quelques géants, fils de la terre, qui auraient hérité de leur puissante mère le génie de la forme. En ces temps romantiques, si ces barons, quelque peu brigands, buvaient comme des ogres, il y avait au moins en eux une certaine noblesse sauvage. C'étaient des sangliers de forêt, dont les défenses déchirent et mettent en pièces, et non de ces animaux ignobles qui grognent dans nos fermes. Ils représentaient les forces du démon continuellement en lutte avec la beauté, la vertu et les habitudes aimables de la vie. Ils contrastaient puissamment avec le ménestrel errant, la princesse aux douces lèvres, la piété du cloître et le timide israélite. Alors les armures flamboyaient au soleil et les bannières flottaient au vent. C'était le temps des aventures et des fiers combats. À cette époque de l'art et de l'enthousiasme religieux, se bâtirent les cathédrales, et de puissants empereurs quittèrent leur palais de l'Occident pour succomber sous les coups de l'infidèle, possesseur de l'Orient sacré. Voilà pourquoi ces châteaux du Rhin me pénètrent d'un sentiment de poésie. Ils appartiennent à la grande vie historique de l'humanité et évoquent pour moi les visions du passé. Mais ces squelettes froids et anguleux des villages du Rhône m'oppressent par le sentiment que la vie humaine avait là, pour le plus grand nombre au moins, ce caractère d'existence étroite, chétive, terre à terre, que la douleur même ne peut ennoblir, mais dont elle ne fait que mettre à nu la nullité. Et j'ai la cruelle conviction que les êtres dont ces ruines nous parlent faisaient partie de cette masse immense de vies obscures qui seront vouées au même oubli que les générations de fourmis et de castors. Quelque chose d'analogue à ce pénible sentiment pèsera peut-être sur vous à la vue de cette famille aux mœurs antiques vivant sur les rives de la Flosse et que la douleur peut à peine élever au-dessus du tragicomique. C'est une existence vulgaire, dites-vous, que celle des Taleva et des Dodson. On n'y voit rayonner aucune aspiration élevée, aucune vue romanesque, aucun principe de foi active ou de renoncement. Elle n'est agitée par aucune de ces passions sauvages, indomptables, qui créent de fortes ombres de misère et de crime. Il lui manque cette rude et primitive simplicité de besoin, ce dur travail accepté et mal rémunéré, cette compréhension naïve des leçons de la nature qui donne de la poésie à la vie du paysan. Ici, on trouve les idées et les habitudes d'un monde de conventions sans instruction et sans vernis, ce qui est certainement la forme la plus prosaïque de la vie humaine. Une orgueilleuse position de fortune se pavanant dans une voiture passée de mode, de la mondanité sans ses brillants accessoires. En observant attentivement tous ces êtres, même quand la main de fer du malheur a brisé ce qui les attachait positivement au monde, on trouve peu de traces de religion, encore moins d'une foi chrétienne distincte. Leur croyance dans l'invisible, si elle se manifeste en quelque chose, paraît avoir plutôt un caractère païen. Leurs idées de moralité, en dépit d'une puissante ténacité, semblent n'avoir d'autres principes que la coutume héréditaire. Vous ne sauriez subsister au milieu de ces gens-là. Vous êtes suffoqué par l'impossibilité de pouvoir passer de cet entourage à quelque chose de beau, de grand ou de noble. Vous êtes irrité contre ces ennuyeux personnages, comme s'ils formaient une population en désaccord avec la terre sur laquelle ils vivent, avec cette imposante plaine où la grande rivière roule majestueusement ses ondes et relie l'existence de la vieille ville anglaise au mouvement général du monde. La grossière superstition qui nous porte à faire de nous des victimes paraît mieux d'accord avec le mystère de l'humanité que la condition intellectuelle de ces Dodson et de ces Taleva, semblables à de laborieuses fourmis. Je partage avec vous cette impression de mesquinerie écrasante. Mais il est nécessaire que nous l'éprouvions si nous voulons comprendre son action sur les vies de Tom et de Maggie, comme sur celle de beaucoup d'autres jeunes existences qui, par suite de la tendance naturelle au progrès, ont dépassé en intelligence la génération qui les précédait et où se trouvaient les objets de leurs premières affections. La souffrance, comme martyr ou comme victime, qui appartient à tout progrès historique de l'humanité, se trouve reproduite dans une multitude de cœurs obscurs. Nous ne devons point craindre cette comparaison du petit au grand, car la science ne nous dit-elle pas que ses plus hautes recherches ont pour but de trouver une unité qui relie les plus petites choses aux plus grandes. Dans les sciences naturelles, à ce que j'ai compris, il n'y a rien de mesquin pour l'esprit qui embrasse largement les relations. Chaque objet isolé lui suggère une foule de conditions qui s'y rattachent. Il en est certainement de même dans l'observation de la vie humaine. Les idées religieuses et morales des Dodson et des Taleva étaient assurément d'une espèce trop particulière pour être le résultat du protestantisme de la Grande-Bretagne. Leur théorie de la vie avait un fond d'honnêteté tel que doivent l'avoir toutes les théories par lesquelles les familles devenues prospères se sont élevées et ont fleuri. Mais elles n'avaient que fort peu de teinture théologique. Si, avant que les sœurs Dodson fussent mariées, leur Bible s'ouvrait plus facilement à quelques endroits qu'à d'autres, c'était à cause des pétales desséchés de tulipes qui s'y trouvaient intercalés indifféremment, sans préférence pour l'enseignement historique, moral ou dogmatique. Leur religion était d'une espèce simple, à demi païenne, mais ne renfermait aucune hérésie, si hérésie veut dire choix, car elles ignoraient qu'il y eût d'autres sectes religieuses que celles des gens allant aux différentes chapelles, dissidence qui leur paraissait héréditaire, tout comme l'asthme. Comment aurait-elle pu les avoir, le pasteur de leur bienheureuse paroisse rurale n'étant point un controversiste, mais un bon joueur de whist, toujours disposé à plaisanter avec une jeune et fraîche paroissienne. La religion des Dodson consistait à révérer tout ce qui était selon la coutume et respectable. Il fallait être baptisé afin de pouvoir être enterré dans le cimetière et de recevoir avant la mort les sacrements qui rassurent contre un danger vaguement pressenti. Mais il était tout aussi nécessaire d'avoir à ses funérailles les porteurs de manteaux les plus convenables, des jambons bien préparés, et de laisser un testament inattaquable. Un Dodson ne devait point être accusé de négliger quoi que ce soit de bienséant, indiqué par l'exemple des principaux paroissiens et par les traditions de famille, telles que l'obéissance aux parents, la fidélité conjugale, le travail, l'honnêteté rigide, l'activité, le nettoyage à fond des ustensiles de bois ou de cuivre, la conservation de pièces d'argent menacées de disparaître de la circulation, la production de denrées de premier ordre pour le marché, et une préférence générale pour tout ce qui se faisait à la maison. Les Dodson étaient une race très fière, et leur fierté consistait à rendre impossible toute accusation de manquer aux usages ou aux devoirs traditionnels. Orgueil sain à plusieurs égards, puisqu'il unissait l'honneur à la parfaite intégrité, le vrai travail et la fidélité aux règles admises. Aussi la société est-elle redevable des estimables qualités de plusieurs de ses membres à des mères de la classe des Dodson, qui ont bien fabriqué leur beurre et leur pain, et qui se seraient crues déshonorées en faisant autrement. Être honnête et pauvre ne fut jamais la devise des Dodson. Paraître riche, quoique pauvre, encore moins. Le signe caractéristique de la famille fut plutôt d'être honnête et riche, et non seulement d'être riche, mais plus encore qu'on ne le supposait. Vivre respecté et avoir un enterrement convenable devait être le but de l'existence, et il aurait été complètement manqué si la lecture de votre testament vous eût fait baisser dans l'opinion de vos semblables. soit qu'il vous montra plus pauvre qu'il ne s'y attendait, soit que vous eussiez distribué votre argent d'une manière capricieuse, sans un strict égard au degré de parenté. On devait toujours agir convenablement vis-à-vis de ses proches, ce qui signifiait les corriger sévèrement s'ils ne faisaient pas honneur à la famille. Mais malgré cela, ne pas les priver de leur moindre droit au partage dans ce qu'elles possédaient. Une qualité remarquable du caractère d'Hudson était la franchise. Ses défauts, aussi bien que ses vertus, étaient l'expression d'un égoïsme fier et honnête qui désapprouvait énergiquement tout ce qui entachait sa réputation ou compromettait son intérêt, et qui avait des paroles de dure vérité pour un parent incommode qu'on n'oublierait ni n'abandonnerait jamais, en le laissant manquer de pain, mais à qui on le ferait manger avec des herbes amères. La même espèce de foi traditionnelle coulait dans les veines des Taleva, mais unie à un sang plus riche, à des éléments de généreuse imprudence, de chaude affection, à la rudesse d'un caractère ardent. On avait entendu le grand-père de M. Taleva dire qu'il descendait d'un Ralph Taleva, individu étonnamment habile, bien qu'il se fût ruiné. Il est assez probable que cet habile Ralph avait été un bon vivant, montant des chevaux vifs et très entêté dans ses opinions. D'autre part, on n'avait jamais entendu parler d'un Dodson qui se fût ruiné. Ce n'était pas le genre de la famille. Si les Dodson et les Taleva envisageaient ainsi la vie au milieu de laquelle ils avaient été élevés, autant méritoire de Pitt et de la cherté des vivres, vous comprendrez, d'après ce que vous savez déjà sur l'état de la société à Saint-Ogg's, qu'aucune influence n'aurait pu modifier leur vie parvenue à sa maturité. Il se pouvait même que dans ces derniers temps de prédication catholique, les gens retinssent encore bien des idées païennes et se crussent malgré cela de véritables membres de l'Église anglicane. Ainsi, nous pouvons à peine éprouver quelques surprises de ce que M. Taleva, quoiqu'allant régulièrement au temple, fit inscrire son pacte de vengeance sur le premier feuillet de sa Bible. On ne pouvait accuser de cela le pasteur de cette charmante paroisse de campagne, dont le moulin de Dorlcote faisait partie. Un homme de bonne famille, célibataire irréprochable et recherchant l'élégance. Il avait pris ses grades et jouissait d'une bourse académique. M. Taleva lui témoignait le respect voulu, comme il le faisait à tout ce qui concernait le service divin. Mais il envisageait l'Église comme une chose, le sens commun comme une autre, et il n'avait besoin de personne pour lui dire ce qu'était le sens commun. Certaines semences, qui ont besoin de trouver un milieu qui leur convienne pour contrebalancer des circonstances défavorables, ont été pourvues par la nature de crampons qui leur permettent de s'attacher à des surfaces offrant peu d'adhérence. La semence spirituelle distribuée à M. Taleva, et dépourvue probablement d'accessoires analogues, avait été facilement balayée par les vents. Chapitre 2. Surcroît d'épines. La surexcitation même qui accompagne la première secousse du malheur a quelque chose qui soutient, de même qu'une douleur aiguë est souvent un stimulant qui donne une force passagère. C'est plus tard, lorsque la vie devenue monotone s'offre si différente de celle qui a précédé. Alors que le temps a vieilli le chagrin et émoussé cette vivacité d'émotion qui contrebalançait la douleur. Alors qu'un jour succède à un autre jour, avec une triste uniformité, sans espérance, et que l'épreuve est quotidienne. C'est alors que le désespoir devient menaçant et que l'on sent cette soif impérieuse de l'âme qui fait que la vue et l'ouïe attendent avec avidité quelque sujet de satisfaction. Le temps de ce besoin extrême était arrivé pour Maggie, malgré la courte durée de sa vie. À 13 ans, elle joignait à la précocité ordinaire de la jeune fille l'expérience prématurée que donne la lutte, ce combat entre l'impulsion intérieure et le fait extérieur, qui est le lot de toute nature passionnée et ardente. Les années écoulées depuis le temps où elle enfonçait des clous dans sa victime du galta vermoulu avaient été remplies d'une vie si active par le triple monde de la réalité, des livres et des rêves éveillés, que Maggie avait acquis l'expérience de l'âge mûr, excepté dans son manque complet de prudence et d'empire sur elle-même, tandis que ces qualités-là faisaient de son frère un homme en dépit de son enfance intellectuelle. Maintenant, l'existence de Maggie redevenait calme et une triste monotonie refoulait plus que jamais ses pensées dans son fort intérieur. Son père pouvait de nouveau se livrer à ses occupations. Ses affaires étaient arrangées et il travaillait au moulin comme agent de Wakeham. Tom partait le matin et revenait chaque soir de St. Ogg's, toujours plus silencieux pendant son court séjour à la maison. Qu'aurait-il eu à dire? Un jour ressemblait à l'autre, et repoussé et froissé sur tant de points, l'intérêt qu'il prenait à la vie se concentrait dans la seule force d'une résistance ambitieuse opposée au malheur. Les singularités de son père et de sa mère lui devenaient désagréables, maintenant qu'il les voyait dépouillés de tous les dédommagements d'un intérieur commode et prospère. Car les vues de Tom, d'une clarté très prosaïque, ne risquaient point d'être troublées par les brouillards du sentiment ou de l'imagination. Il semblait que la pauvre Madame Talleva ne reviendrait jamais elle-même ou ne retrouverait jamais sa calme activité ménagère. Comment l'aurait-elle pu? Les objets au milieu desquels son esprit avait vécu satisfait avaient tous disparu. Ses petites espérances, ses petits projets, ses petits calculs, tous ces petits soins agréables donnés au trésor qui avait été le monde pour elle pendant un quart de siècle, depuis qu'elle avait fait son premier achat des pinces à sucre, lui avaient été soudainement arrachés, et elle se sentait perdue dans le désert de cette vie. Qu'il lui fût arrivé à elle ce qui n'était arrivé à aucune autre femme devenait une question insoluble par laquelle elle exprimait sa comparaison perpétuellement ressassée du passé avec le présent. C'était pitié de voir cette bonne femme, naguère blonde et grasse, maigrir et s'user par une agitation corporelle aussi bien que mentale, qui la faisait souvent errer dans cette maison démeublée, jusqu'à ce que Maggie, alarmée, la chercha et la ramena au parloir, en lui disant combien cela peinait Tom, qu'elle altéra sa santé en ne se reposant jamais. Cependant, au milieu de cette agitation sans but, elle avait pour Maggie de touchantes attentions maternelles, qui faisaient apprécier à celle-ci toute la tendresse de sa pauvre mère et la consolait de tous les ennuyeux petits chagrins que lui causait sa faiblesse d'esprit. Elle ne voulait laisser faire à sa fille aucun des ouvrages fatigants ou grossiers et se montrait tout à fait de mauvaise humeur quand Maggie essayait de la soulager pour le nettoyage des foyers ou des ustensiles. « Laisse cela, ma chère. Tes mains deviendraient aussi rudes que les miennes, » disait-elle. « C'est à ta mère à le faire. Je ne puis plus coudre, mes yeux s'affaiblissent. » Elle prenait le même soin des cheveux de Maggie, avec lesquels elle s'était réconciliée malgré leur refus de boucler, maintenant qu'ils étaient longs et abondants. Maggie n'était pas son enfant préféré, et elle l'aurait trouvé beaucoup mieux si elle eût été différente en tout. Cependant, ce cœur féminin, si froissé dans ses petits désirs personnels, souhaitait un avenir de repos pour cette jeune fille. Et la mère avait du plaisir à gâter ses propres mains pour conserver celles de son enfant pleines des trésors de la vie. Mais la vue constante des regrets de sa mère était moins pénible pour Maggie que celle de l'abattement obstiné et silencieux de son père. Aussi longtemps que la paralysie le domina, et qu'on put croire qu'il resterait dans un état d'enfance et de dépendance, aussi longtemps qu'il parut calme et n'ayant qu'une demi-perception de son malheur, Maggie avait ressenti une puissance d'amour et de pitié, un enthousiasme dévoué, lui donnant comme une nouvelle force pour lui rendre facile à supporter, à cause de lui, les plus grandes difficultés de la vie. Mais maintenant, à cette dépendance de l'enfance, avait succédé une ferme et taciturne concentration de volonté, en contraste singulier avec son précédent caractère vif et communicatif. Et cet état continua de jour en jour, de semaine en semaine, sans que ses yeux brillassent jamais de quelque vivacité ou de quelque gaieté. Il y a un sentiment cruel et inexplicable pour les natures jeunes, dans cette sombre taciturnité des personnes âgées ou d'âge mûr, dont la vie a eu pour résultat la déception. Le mécontentement se peint sur ces visages, auxquels un sourire devient si étranger que les tristes lignes des lèvres ou du front n'en sont plus adoucies, et qu'ils s'en éloignent à la hâte, comme y étant déplacés. Pourquoi ne veulent-ils pas s'animer et s'égayer quelquefois? Pense l'impressionnable et élastique jeunesse. Ce serait si facile s'il voulait seulement essayer. Et ces nuages de plomb qui ne veulent jamais se dissiper donnent de l'impatience même à l'affection filiale, dont la tendresse et la pitié ne sont que plus vives dans un temps d'affliction commune. M. Taleva ne s'arrêtait jamais hors de chez lui. Il quittait le marché à la hâte et refusait toute invitation de rester, comme naguère, à causer dans les maisons où les affaires l'appelaient. Il ne pouvait se réconcilier avec son sort. Sa fierté se sentait continuellement froissée, et dans la conduite de chacun à son égard, bienveillante ou froide, il trouvait quelque allusion au changement survenu. Les jours même où Wakeham venait à cheval visiter les terres et s'informer des affaires étaient moins tristes pour lui que ceux du marché où il rencontrait quelques-uns des créanciers qui avaient accepté un arrangement avec lui. Économiser quelque chose pour rembourser ses créances était le but vers lequel tendaient maintenant toutes ses pensées et tous ses efforts, et, sous l'influence de cet impérieux désir, cet homme, en quelque sorte prodigue, qui avait horreur qu'on lui comptât les morceaux ou qu'on le fît pour d'autres dans sa propre maison, en était peu à peu venu à donner avec regret les moindres choses. Madame Taleva ne pouvait, selon lui, assez économiser au sujet de la nourriture et du feu, et il ne voulait manger que les mets les plus vulgaires. Tom, quoique abattu et constamment rebuté par la maussade humeur de son père et la triste nudité de la maison, partageait complètement les dispositions paternelles au sujet des créances. Le pauvre garçon apporta l'argent de son premier trimestre avec une délicieuse sensation d'espérance, et le donna à son père pour le remettre dans la boîte d'étain qui renfermait les économies. La petite provision des pièces d'or renfermées dans cette boîte semblait être la seule vue qui amena dans les yeux du meunier un rayon de plaisir léger et fugitif, bientôt dominé par la pensée que le temps serait long avant que ses minces épargnes puissent enlever ce poids insupportable de dettes et qu'il le porterait peut-être toute sa vie. Un déficit de plus de 500 livres, avec les intérêts accumulés, semblait un puits bien profond à combler par une économie de 30 shillings par semaine, même en y ajoutant les épargnes que Tom pouvait espérer faire. Il y avait sur ce point une entière communauté de sentiments entre les 4 personnes, si différentes l'une de l'autre, qui prenaient place autour du feu de fagot, qui leur donnait à peu de frais quelque chaleur au moment d'aller se coucher. Madame Taleva avait dans le sang la fière intégrité des Dodson. Elle avait été élevée dans la pensée que priver les gens de leur argent, ce qui voulait dire avoir des dettes, était une espèce de pilori moral. C'eût été un crime, à son avis, que de s'opposer au désir de son mari de faire la seule chose convenable pour relever son nom. Elle avait confusément l'idée que si les créanciers étaient payés, son argenterie et son linge pourraient lui revenir. Mais elle était imbue de ce principe que tant que les gens doivent un argent qu'ils ne peuvent payer, ils ne sauraient sans injustice rien considérer comme leur bien légitime. Elle murmurait un peu de ce que M. Taleva ne voulait absolument rien demander à M. et Mme Moss. Mais elle se soumettait à toutes ses exigences d'économie domestique, au point de se refuser les douceurs les moins coûteuses. La seule infraction qu'elle se permit était d'introduire dans la cuisine quelque chose qui pût faire un meilleur souper que d'habitude pour Tom. Ses idées étriquées au sujet des dettes auxquelles tenaient ses arriérés Taleva amèneront peut-être le sourire aux lèvres de quelques-uns de mes lecteurs dans ces jours de grande vue commerciale et de large philosophie, suivant lesquels chaque chose s'arrange d'elle-même sans que nous en prenions la peine. Le fait qu'un de mes fournisseurs est sans argent par ma faute doit être compensé par l'idée qu'un autre fournisseur est bien payé par un autre client. Et puisqu'il doit y avoir des dettes dans ce monde, ce serait un pur égoïsme de ne pas vouloir en prendre quelques-unes à notre propre charge. Je raconte l'histoire de gens très simples qui n'avaient jamais eu de doute à éclaircir sur l'intégrité et l'honneur personnel. Au milieu de toute cette austère mélancolie et de cette concentration de désir, M. Taleva conservait à l'égard de sa petite un sentiment qui lui rendait la présence de celle-ci nécessaire, comme si elle eût suffi à lui donner du courage. Maggie était la satisfaction de ses yeux. Mais cette source de joie si douce, l'amour paternel, se trouvait maintenant mélangé d'amertume, comme tout le reste. Quand Maggie quittait son ouvrage le soir, elle avait l'habitude de s'asseoir sur un petit tabouret bas, près de son père, contre lequel elle appuyait sa joue, comme elle aurait désiré qu'il lui fît une légère caresse, ou lui prouvât par quelques signes qu'il était soulagé par le sentiment d'avoir une fille qu'il aimait. Mais maintenant, rien ne répondait à ses aimables avances, ni de la part de son père, ni de celle de Tom, ces deux idoles de sa vie. Tom était toujours abattu et distrait pendant les courts intervalles de son séjour à la maison. Et le père se préoccupait amèrement de la pensée que sa fille grandissait, que ce serait bientôt une femme, et comment réussirait-elle dans cette vie. Elle avait bien peu de chances de se marier, après la déchéance de ses parents. Et il avait horreur de la pensée qu'elle pourrait s'établir aussi misérablement que l'avait fait sa tante Gritty. Il y aurait de quoi le mettre dans sa fosse que de voir cette chère petite aussi usée par la fatigue et les soucis de famille que la pauvre Madame Moss. Quand des esprits sans culture, réduits à un ordre mesquin d'expériences personnelles, sont sous le poids de malheurs continus, leur vie intérieure est exposée à n'être plus qu'une suite interrompue de pensées tristes et amères. Les mêmes mots, les mêmes scènes se ressassent constamment, la même humeur les accompagne, et la fin de l'année les retrouve tels qu'au commencement, comme s'ils étaient des machines arrangées pour une certaine série de mouvements périodiques. La monotonie des journées n'était interrompue que par de rares visiteurs. Les oncles et les tantes ne faisaient plus que de courtes apparitions. Naturellement, ils ne restaient pas pour les repas, et le sauvage silence de M. Tulliver, qui rendait leur voix plus vibrante dans le vide de ses chambres, augmentait le peu d'agrément de ces visites de famille. Des deux côtés, on cherchait à rendre ces entrevues plus rares. Quant aux autres relations, elles se tenaient à distance, redoutant la froide atmosphère qui entoure une famille déchue. Dans ces temps reculés, un effrayant isolement se faisait dans la société chrétienne civilisée de ce royaume autour des familles déchues de leur position première, à moins qu'elles n'appartinssent à quelque église de ces sectaires qui savent trouver de la chaleur dans leur confraternité religieuse.